Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est le groupe d'Amnesty International Évreux pour son émission mensuelle, jusqu'à présent mensuelle, mais ça on vous dira pourquoi je dis ça en commençant l'émission. Et on est donc le mardi 28 juin. Vous avez peut-être vu sur le site de Principe Actif que on est déjà, les gens de la radio ont déjà programmé la grille d'été, c'est-à-dire que normalement les émissions habituelles sont interrompues après le Festival Rock où on était nous-mêmes le week-end dernier, mais on a bien sûr tenu à faire notre émission normalement, comme la programmation nous l'indique, le dernier mardi du mois. Donc on est présent ce soir. Ce soir, autour de la table, donc il y a à côté de moi Sabine.
Bonsoir.
Il y a Françoise.
Bonsoir.
Il y a Ronan qui est comme d'habitude derrière la console.
Bonsoir.
Et il y a quelqu'un qui fait partie du groupe mais qui n'a encore jamais venu parler aux émissions de radio. Elle a déjà assisté mais elle a déjà parlé. Alors elle est un peu intimidée mais bon, ça va très bien se passer. Donc elle nous vient aussi de République démocratique du Congo et ça tombe bien puisqu'elle va vous en parler tout à l'heure. C'est Jaël.
Bonsoir.
Voilà. Donc, et moi en fait Ronan, j'oublie toujours mon nom quand je suis à la radio donc...
Didier.
Voilà, merci. Donc ce soir, parmi les sujets rapidement qu'on va aborder, on va reparler, Françoise va vous parler de pas mal d'informations sur le droit des enfants. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent et Françoise c'est un peu une spécialiste, donc on est très content qu'elle soit là ce soir pour en parler. Il y a Sabine qui va vous parler d'un rapport qui a été publié par une association qu'on connaît bien, qui est très proche d'Amnesty, qui s'appelle l'ACAT. L'association des chrétiens pour l'abolition de la torture et qui a publié une enquête assez alarmante, pour ne pas dire alarmiste, sur la banalisation de l'idée de la torture au niveau de l'opinion publique française. Vous en comprendrez plus tout à l'heure. Moi-même, je vais vous faire un petit point sur l'évolution du traité sur les armes. On en avait parlé à l'époque quand il avait été signé. Reportez-vous au podcast d'il y a 3 ans et 2 ans. Mais Amnesty a publié dans sa dernière chronique, le mensuel, un petit dossier sur l'évolution de ce traité, donc je vais vous en parler. Il y a bien sûr Ronan qui va vous parler aussi de bonnes nouvelles, sa spécialité, d'appel à l'action, etc., etc. Il y a Sabine qui est en train de me tirer sur le fil du micro, de me faire faire un problème technique. Donc on fera aussi un petit mot sur notre présence au Festival Rock le week-end dernier, on va vous parler de la rentrée, etc. Ce ne sont pas les informations et les touchant les droits humains, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr on est là pour vous parler des droits humains, c'est la raison d'être d'Amnesty International, et donc on ne manquera pas de sujet d'ici 20h. Donc pour commencer l'émission, je vais vous lire un petit texte qui a été rédigé par la directrice d'Amnesty International Grande-Bretagne, qui s'appelle Kate Allen, et que j'ai récupéré sur le site d'Amnesty Grande-Bretagne, bien sûr, et que j'ai traduit. Ça parle du référendum qui vient d'avoir lieu en Grande-Bretagne, non pas sur la signification du référendum, parce que le référendum, c'est une chose. Amnesty International n'a rien pour ou contre le fait que la Grande-Bretagne fasse partie ou non de l'Union européenne. Ça, c'est le choix de la majorité des citoyens britanniques. Mais principalement parce qu'en fait, la campagne de ceux qui voulaient quitter l'Europe a été énormément entachée, je dirons-nous, de propos xénophobes et de propos qui s'adressaient sur le refus des migrants et des réfugiés. Et ça, c'est quelque chose, par contre, sur ce sujet-là, qui concerne directement Amnesty. Donc, Kate Allen a fait ce petit texte et je trouve qu'il est particulièrement intéressant. Et c'est une bonne façon aussi de conclure nous-mêmes, notre saison avant la pause d'été. Donc, voilà ce que ça dit. Les dés sont jetés. Le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne. Il en résulte beaucoup d'incertitudes et l'une d'entre elles est de savoir ce que tout cela signifie en termes de droits humains. Pendant la campagne, nous avons entendu des discours et des débats appelant gravement à la division, empreints d'une rhétorique xénophobe, relevant du plus petit dénominateur commun. Maintenant, cependant, nous devons ouvrir une nouvelle page, cesser cette rhétorique de division et veiller à ce que les gens, indépendamment de leurs origines, qui souhaitent vivre au Royaume-Uni, se sentent en sécurité et puissent le faire. Quel que soit notre destin maintenant, nous avons besoin d'une feuille de route. Nous devons nous redéfinir. Nous devons retrouver notre voie et nous réapproprier nos valeurs avant que d'autres dommages, conséquences des mensonges, ne soient commis envers les immigrés ou d'autres boucs émissaires. Pendant la campagne, je me suis alarmé de la façon de plus en plus négative dont certains ont présenté leurs arguments contre l'immigration, diabolisant les immigrés et agitant l'hostilité contre eux. Alors que ce référendum tombait en pleine semaine de la défense des réfugiés, il était si triste d'entendre des discours de peur, de mythes et de mensonges, oubliant les innombrables contributions culturelles, sociales, littéraires, sportives, politiques, scientifiques, musicales, gastronomiques et altruistes apportées par les migrants dans chaque communauté du Royaume-Uni. Mais catégoriser, rejeter et déshumaniser les personnes pour en faire un argument politique est une profonde erreur. C'est une honte pour nos hommes politiques, notre presse, nos médias et notre opinion publique. Quoi qu'il arrive maintenant, nous avons besoin de toute urgence d'un nouvel engagement de nos responsables politiques et de leurs commentateurs. Nous avons également besoin d'une attention renouvelée portée aux valeurs de ce qui constitue notre humanité. Les gens sont bien évidemment concernés par ce que cela implique pour leurs droits et le gouvernement a l'impérieuse nécessité de réaffirmer son engagement à les protéger. Les négociations à venir sont une opportunité pour faire des droits humains un point central, une force unificatrice. Le gouvernement britannique doit veiller à préserver la priorité donnée à la protection de ces droits, comme cela fut le cas lors de la création de l'Union européenne, particulièrement dans les domaines de l'égalité, de la vie privée et des droits des travailleurs. À l'occasion de la journée des réfugiés à travers le monde, Amnesty a rejoint des milliers de personnes exprimant ce que nous avons en commun est bien plus important que ce qui nous divise. Participant à Trafalgar Square, alors c'est toujours bien sûr Catalan qui parle, il y a quelques jours au rassemblement en mémoire de Jo Cox. Je fais une parenthèse, Jo Cox c'est la députée britannique qui a été assassinée et qui faisait campagne pour le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Donc Catalan continue. J'ai pris de nouveau conscience que le pouvoir est du côté des gens unis, même face au désespoir. Au lieu de nous focaliser sur nos différences et nos divisions, nous devons nous préoccuper de ce qui nous unit. Alors que débute ce nouveau chapitre post-référendum. Je demande à chacun à travers le Royaume-Uni de prendre cet engagement avec nous. À Amnesty, nous sommes persuadés qu'il vaut mieux allumer une bougie que de maudire l'obscurité. Et il n'y a plus de temps pour la malédiction. Il est urgent de se remettre à travailler ensemble. Voilà, donc ça c'était le point de vue d'Amnesty Grande-Bretagne à travers la voix de sa directrice, donc je pense que c'est tout à fait important. Un petit commentaire sur la bougie, vous avez sûrement déjà vu que le logo d'Amnesty c'est une bougie allumée, et effectivement le symbole de la bougie ça vient de son créateur qui a toujours dit « il vaut mieux allumer une bougie que de maudire l'obscurité », ce qui est une très belle phrase. Voilà, donc après ce petit préambule, il y a Françoise qui va enchaîner sur le dossier enfant.
Voilà, alors je vais vous donner quand même des bonnes nouvelles parce qu'il y en a. Eh bien, enfin, la France vient de publier au journal officiel du 24 avril 2016 le décret d'application du troisième protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant. Dorénavant, des enfants ou des groupes d'enfants qui affirment être victimes d'une violation par l'État d'un des droits énoncés dans la Convention ou dans les deux protocoles facultatifs pourra présenter une communication devant le Comité des droits de l'enfant. Celui-ci devra, dans un délai raisonnable, trouver un règlement à l'amiable ou mener une procédure d'enquête pour faire des recommandations à l'État qui devra y répondre. Ça, c'est le cas de la France. Il y a aussi le cas de l'Italie. L'Italie qui aussi vient de ratifier le troisième protocole à la CIDE, c'est-à-dire au Comité des droits de l'enfant. Voilà, ça c'est important que ces deux pays aient enfin ratifié ce protocole. En France, une cinquantaine de familles roms évitent l'expulsion. Ça a eu lieu, la décision d'expulsion avait été donnée en octobre 2015 et les familles ont pu rester à l'endroit où elles étaient, car depuis un an et demi, s'étaient installés et avaient fait des démarches d'insertion. En Serbie, il y a eu arrêt d'expulsion de familles roms. Le premier ministre adjoint de la République de Serbie nous informe que la municipalité de Zemun a arrêté l'expulsion des familles roms du quartier informel de Gmerk, ce que notre action urgente oui du 21 juillet demandait. En outre, le gouvernement central a demandé que toutes les municipalités respectent les normes internationales à cet égard et les accords ratifiés par le pays en attendant de nouveaux règlements. Donc nous sommes toujours contents de connaître les retours suite à vos interventions. Merci à certains groupes qui nous ont transmis les réponses reçues lors des actions urgentes qui ont été lancées. Bien, j'en profite pour dire qu'une action urgente, ça sert vraiment. En Égypte, Mahmoud Hussein, enfin libre le 25 mars 2016. Pour lui aussi, nous avions écrit. C'est une excellente nouvelle pour les dizaines de milliers de sympathisants d'Amnesty qui se sont mobilisés ces deux dernières années pour voir ce jeune prisonnier d'opinion enfin libre. Néanmoins, cette libération sous caution ne doit pas faire oublier les 790 jours qu'il a passés en prison sans procès, simplement pour avoir porté un t-shirt demandant une nation sans torture, ainsi qu'une écharpe à l'effigie de la révolution du 25 janvier. 790 jours de trop pour un prisonnier d'opinion aujourd'hui affaibli et en mauvaise santé. Mahmoud Hussein, le jour de sa libération, a été vu porté devant le tribunal en raison de son état de santé détérioré. Son avocat avait demandé sa libération immédiate afin qu'il puisse recevoir une intervention chirurgicale à la jambe. Enfin, il est libre maintenant. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant les bonnes nouvelles à propos du droit des enfants.
Ok, bah écoute, c'est toujours intéressant, après les nouvelles un peu dramatiques qu'on a souvent malheureusement l'occasion de donner à la radio dans nos émissions, d'avoir aussi effectivement tout ce côté bonnes nouvelles et d'avancer. Mais ça, c'est aussi la spécialité à Ronan qui va nous en dire un petit peu plus tout à l'heure, parce que c'est pas maintenant. Maintenant, c'est Sabine qui va vous parler ce fameux rapport publié par l'ACAT, publié très récemment au début du mois, et qui parle de la banalisation de l'idée de la torture en France. Donc je pense que Sabine va nous en apprendre plus.
Oui, pour continuer sur le t-shirt « Un monde sans torture », l'ACAT a fait effectivement un sondage qui a été commandé par l'IFOP, et où il en ressort sur que pensaient les Français effectivement de la torture. Et il en ressort un état des lieux du phénomène tortionnaire dans le monde qui révèle des inquiétants résultats sur la perception qu'ont les Français de la torture. Les résultats de ce sondage, qui a été mené en avril 2016 auprès de plus de 1500 personnes, sont quelque peu inquiétants. Une acceptation plus importante de la torture marquée par le contexte post-attentat. 36% des sondés acceptent le recours à la torture dans des circonstances exceptionnelles, contre 25% en 2000. Un sondage qui avait été fait aussi en 2000. 54% des Français acceptent qu'une personne suspectée d'avoir posé une bombe prête à exploser soit soumise à des décharges électriques. 54% des personnes interrogées considèrent que la torture est efficace pour prévenir des actes de terrorisme et obtenir des informations fiables. Une erreur, comme l'a notamment montré le rapport du Sénat américain sur la torture de la CIA publié en 2014. 18% des sondés déclarent qu'ils pourraient envisager de recourir eux-mêmes à la torture.
Ah bon, ils deviendraient donc tortionnaires. Ça ne effraie pas d'avoir l'idée de torturer quelqu'un d'autre.
Et ce chiffre de 18% atteint 40% pour les sympathisants du Front National.
Oui. Ben oui.
C'est inquiétant tout ça quand même.
Ah ouais. Donc il est très préoccupant de constater que plus d'un tiers des Français pensent que des circonstances spéciales peuvent justifier le recours à la torture. Plus effrayant encore, le fait que confrontés au scénario de la bombe à retardement, plus de la moitié des sondés acceptent l'utilisation de la torture.
C'est quoi l'histoire du scénario de la bombe à retardement? Tu peux en dire un petit peu plus, non?
Eh bien, un Français sur trois accepte la torture. Ils acceptent que des personnes susceptibles, enfin qui suspectée, 54% des Français acceptent qu'une personne suspectée d'avoir posé une bombe soit soumise à des décharges électriques.
Ah oui, pour le faire avouer. Pour le
suspecté, faire avouer, ça veut dire que même sans preuve ni rien, si on a un petit doute.
Absolument.
Ou quelqu'un qui n'aime pas son voisin,
on a
par
un
exemple.
Doute. Non, quand même pas qui n'aime pas son voisin, mais on a un
tu
doute.
Sais, c'est ouvert à tout ça.
Ouais, je suis désolée, dans ce pays, il y a toujours eu la présomption d'innocence.
Oui.
Là, il y a 54% des Français qui... Bon, la présomption, là, il y a un doute. Il est suspecté, donc on peut se servir de décharge électrique. On peut le torturer, parce que des fois, que ça soit lui,
pour le faire,
on passe
pas
à côté.
Dans l'idée de le faire avouer où il a posé la bombe, quoi.
Ah, oui ou non, mais bon, voilà. Sans aucune certitude, puisque suspect. Donc ça, c'est toujours très, très délicat.
Effectivement, sur du suspect, c'est très, très délicat.
Ce qu'on a vécu ces derniers temps font que les gens... Bon, c'est un contexte particulier, mais c'est un contexte où l'état d'urgence est encore là, où on fait quand même fi d'un certain nombre de choses et où on imposerait très facilement, on glisserait très, très facilement vers un certain totalitarisme qui pourrait être dangereux.
C'est-à-dire que, enfin, si je peux me permettre encore un commentaire, ça veut dire effectivement qu'il y a un certain nombre de notions qui sont intangibles au niveau des droits humains, et entre autres l'interdiction de la torture, nul ne doit être soumis à un traitement inhumain, dégradant, etc. Et que ça, c'est intangible, je veux dire, on ne peut pas dire que ça s'adapte selon les circonstances.
En fonction des cas. Donc les Français se sentent peu concernés par la torture et connaissent peu la réalité du phénomène tortionnaire. Un Français sur deux ne se sent pas concerné par la question de la torture. Les jeunes générations se sentent moins concernées également. L'image de la torture que se font les sondés ne correspond pas à la réalité. 39% des personnes interrogées considèrent que les minorités ethniques et religieuses sont le plus souvent victimes de torture, alors que ce sont d'abord les délinquants de droit commun, puis les opposants politiques qui sont les principales victimes.
Ça, c'est au niveau mondial, en fait. Non ?
En France, 51% des sondés considèrent que les membres de groupes armés non étatiques et guérillas pratiquent le plus souvent la torture, alors que ce sont les agents des États qui torturent le plus fréquemment.
Ouais, oui.
Les Français ne se rendent pas compte qu'un État sur deux est un État tortionnaire, dit Jean-Étienne de Linares, qui utilise au quotidien ses méthodes pour opprimer ses opposants et faire avouer des suspects de droit commun. Ça, c'est effectivement dans différents pays. Le rapport contient l'analyse de 9 pays, donc on reviendra tout à l'heure je reprendrai quelques chiffres du sondage. Ce sondage est le 5e rapport qu'a fait l'ACAT, qui a consacré l'étude de la torture dans le monde et qui poursuit un travail d'éclairage historique, politique, psychologique et culturel de ce phénomène. Donc, je vais vous donner quelques chiffres par rapport au sondage lui-même. Il en ressort de toute façon en France une tolérance croissante à l'égard de la torture, comme on l'a déjà dit. 40 ans après les premières grandes conventions internationales contre la torture, quels mécanismes ont été mis en place pour lutter contre le phénomène tortionnaire ? Il y a 40 ans, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l'article 7 reprend mot pour mot l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il rentrait en vigueur et il transformait par la même occasion les grands principes de la Déclaration en obligations juridiques pour les États parties. Depuis, différents mécanismes ont été mis en place pour lutter contre la torture. Ce rapport détaille plusieurs de ces mécanismes. Au niveau, donc ça c'était il y a 40 ans, hein, la déclaration, le pacte. Au niveau international, le comité de l'ONU contre la torture surveille l'application de la Convention contre la torture et juge les plaintes individuelles contre les États. Au niveau régional élargi, européen. Le Comité européen pour la prévention de la torture enquête dans 47 États du Conseil de l'Europe et émet des recommandations et rend public ses rapports. au niveau national les mécanismes nationaux de prévention. 64 à 80 États parties à la Convention contre la torture ont créé des mécanismes nationaux pour protéger des personnes en détention. Un protocole d'outils pratiques contre la torture, le protocole d'Istanbul, curieusement, porte oui. bien son nom, oui. ça me fait rire.
Il a dû être signé à Istanbul, en fait, pour votre explication.
C'est un guide reconnu à l'échelle internationale qui permettait aux experts médicaux et juridiques de déterminer si une personne a été torturée ou non. Et ça s'applique toujours. Hein. Cependant, leur efficacité est inégale. Beaucoup de mécanismes nationaux ne sont pas dotés de ressources nécessaires à leur bon fonctionnement. Et la majorité d'entre eux ont des difficultés pour s'assurer que leurs recommandations sont suivies par les autorités. Malgré ces instruments, la torture persiste. Pourquoi ? Comment concevoir que la torture puisse être à la fois condamnée quasi universellement sur un plan juridique comme éthique et néanmoins quotidiennement pratiquée à une vaste échelle ? La torture est utilisée pour conserver le pouvoir dans nombreux pays. Opposants, journalistes, avocats, syndicalistes, défenseurs des droits de l'homme sont opprimés. Le message de la torture est clair. Voilà ce qu'il en coûte de vous opposer. Une redoutable efficacité pour écraser toute velléité de révolte. La torture permet de faire du chiffre. On l'ignore souvent, mais ce sont les délinquants de droit commun qui constituent la majorité des victimes de torture. Si la torture est une pratique quotidienne dans beaucoup de pays, c'est d'abord parce que les policiers mal formés et mal payés l'utilisent comme une méthode d'enquête afin d'obtenir des aveux très rapidement, même s'ils sont faux. On parle évidemment de tout pays confondu. La torture reste largement impunie dans la mesure où elle résulte généralement d'une politique décidée et pour le moins tolérée au plus haut niveau. Et parce qu'ils ne peuvent être commis en aussi grand nombre que grâce à la participation de la complicité de tant de policiers, de militaires et de juges. Évolution inquiétante. Le développement de la torture privée, que ce soit au Sinaï ou en Amérique centrale, un nouveau type de phénomène se développe. La torture privée de migrants à des fins de profit. Exemple, de nombreux Érythréens. Qui fuyaient leur pays, ont été kidnappés alors qu'ils tentaient de trouver refuge hors de leur pays, pays un des plus répressifs du monde, et ils sont emmenés dans des maisons de torture dans le désert du Sinaï. Plusieurs fois par jour, dès 5 heures du matin, ils sont torturés devant un téléphone, alors que leur famille est au bout de fil et que les tortionnaires demandent une rançon. Donc là, c'est vraiment...
Dans le domaine du sordide, l'imagination est infinie.
À l'autre bout du fil, on ne doit pas être bien non plus. Hein. La torture justifiée par la lutte contre le terrorisme. Dans de nombreux pays, Russie, États-Unis, Syrie, j'élargirai la citation des pays. Hein. Je crois qu'on peut être aussi très rapidement... en faire partie, justifie le recours à la torture par la lutte contre le terrorisme. Pourtant, l'usage de la torture ne renforce pas la sécurité, mais la stimule au contraire, et stimule le mécontentement et accentue la menace terroriste. L'argument de la lutte contre le terrorisme sert en outre souvent de prétexte pour réprimer des opposants. En France, une évolution inquiétante de l'opinion publique apparaît réellement. Au niveau des pays, au Mexique, la torture n'a jamais vraiment disparu, mais sa pratique est en très nette recrudescence depuis la politique gouvernementale de la guerre contre le crime organisé lancée en 2006. Le nombre de plaintes pour torture a augmenté de 600% en 10 ans. 600%.
Et oui, c'est un état mafieux aussi. Donc
les plaintes, voilà. Donc, quelque part... Il y a quand même quelques doutes. Hein. Tunisie, 5 ans après la révolution, le bilan de la lutte contre l'impunité des tortionnaires demeure bien maigre. De nombreuses victimes demeurent emprisonnées sur la base d'aveux forcés. D'autres subissent des mesures de rétorsion pour avoir porté plainte au lieu de voir leur tortionnaire puni. Au Congo-Brazzaville, la captation du pouvoir par Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis 32 ans, entretient un climat de tension politique continue dans le pays. Qui se matérialise par des vagues de violence, ponctuelle en marge des épisodes électoraux. La survie de son régime s'appuie en partie sur la persistance du recours à la torture comme moyen pour museler toute velléité d'opposition. En Chine, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, la répression contre la société civile s'est intensifiée et a culminé à l'été 2015 lorsque plus de 300 avocats des droits de l'homme ont été menacés, intimidés ou arrêtés. En Ouzbékistan, un des États les plus répressifs du monde, la situation des droits de l'homme s'est considérablement dégradée dans un contexte d'impunité totale. Et la torture est devenue une méthode d'enquête ordinaire. Donc en gros, les Français, je vais faire court parce que je crois que j'ai pris beaucoup de temps. Les Français, selon parmi les catégories de groupes suivants, lequel est le plus souvent victime d'actes de torture? En premier, ils pensent que ce sont les minorités ethniques et religieuses. Ensuite viennent les opposants politiques, les femmes, les délinquants suspects de droit commun, les minorités sexuelles, les journalistes. Contrairement aux idées reçues, ce sont les délinquants et les suspects de droit commun qui sont les principales victimes de torture. Parmi les catégories au groupe suivant, lequel pratique le plus souvent des actes de torture dans le monde? Des membres de guérilla, 51%, étaient répondus. Les membres d'organisations criminelles, 33%. Les membres de services de renseignement, 6%. Les militaires, 6%. Les membres de forces de l'ordre, les policiers, 3%. Les gardiens de prison, 1%. Encore une fois, contrairement aux idées reçues, ce sont en réalité les militaires, les membres des forces de l'ordre, les policiers, les gardiens de prison qui pratiquent le plus souvent des actes de torture. Si un prisonnier meurt sous la torture qui devrait être traduit en justice, 71% répond le tortionnaire, 47% rendent responsable le centre de détention, 32% le ministre de la Défense, 27% le chef de service des renseignements. La torture existe-t-elle en France? 46% répondent que oui, probablement, 11% certainement, 9% non certainement pas, 34% non probablement pas. Si les Français considèrent en majorité que des actes de torture ont pu avoir lieu en France ces dernières années, cette proportion a baissé depuis 2000. Voilà. Et alors, le fait d'accepter ou pas.
Je crois que la publication de ce rapport montre bien que toutes ces idées de banalisation de la torture, de dire qu'après tout, finalement, ça peut être acceptable dans certaines conditions, etc., etc., ça montre bien que d'abord, c'est un discours complètement stupide, parce que c'est toujours intolérable. La CIA a bien montré d'ailleurs que la torture n'avait servi à strictement à rien après le 11 septembre dans les interrogatoires et n'avait abouti absolument à aucune confidence entre guillemets utile, et que donc il faut surtout rester très vigilant par rapport à cette évolution de la mentalité des gens, parce qu'on est en train effectivement de faire machine arrière sur beaucoup 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 de sujets. Donc on restera nous-mêmes très vigilants. Parce qu'après on va quand même écouter un petit peu de musique.
Voilà. Les Français rejettent majoritairement la torture, mais moins qu'auparavant. 1 sur 3 accepterait le recours à la torture dans des circonstances exceptionnelles. Et par contre, il y a 18% des Français se sentiraient capables de pratiquer eux-mêmes la torture dans des cas exceptionnels. Là, ça m'a quand même interpellée. C'est ce que je cherchais.
C'est inquiétant, même. Et c'est vrai qu'il y a le terrorisme,
maintenant,
c'est l'excuse.
J'ai plein de chiffres, mais je ne peux pas tout donner. Donc non, voilà. Okay. Un retour.
Ok, bon, de toute façon, on en reviendra sur ce dossier de la torture, qui est un dossier sur lequel Amnesty sera amené à se repositionner très prochainement, je pense. Qu'il y aura une nouvelle campagne et on vous en reparlera.
Genre Stop Torture, qu'il y a déjà eu.
On écoute quelques mesures de musique.
Merci.
These days you pay for everything. God.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International Évreux pour son émission mensuelle sur les droits humains. On vient d'entendre Bruce Springsteen, chanteur qui s'est déjà engagé plusieurs fois pour Amnesty, dans un morceau qui s'appelle High Hopes. C'est un bon signe pour Amnesty, parce que la signification en français du titre, ça veut dire des espoirs, enfin, un espoir, voilà, je vais traduire, élevé. Voilà. Donc il faut toujours garder espoir, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc Renan va vous parler un petit peu de bonnes nouvelles,
ouais,
sa spécialité.
Je vais dire une ou deux bonnes nouvelles pour égayer un petit peu.
Et après il y a Jaël, donc pour qui c'est la première émission, qui va nous parler de la République démocratique du Congo. Ça tombe bien, c'est son pays.
Et moi j'ai une bonne nouvelle justement concernant la République démocratique du Congo. La condamnation à 18 ans de prison pour l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo marque une avancée historique pour les victimes de violences sexuelles pendant les conflits. L'arrestation, la condamnation et le verdict de la Cour pénale internationale visant Jean-Pierre Bemba adressent un signal fort. Ceux qui commettent des crimes relevant du droit international seront au bout du compte tenus pour responsables de leurs actes. Le verdict fait suite à la condamnation par la CPI au mois de mars de Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République démocratique du Congo, pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en République centrafricaine, meurtres, viols et pillages notamment. Cela fait aussi clairement savoir que l'impunité pour les violences sexuelles utilisées comme armes de guerre ne sera pas tolérée et que les commandants militaires doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher leurs subordonnés de commettre de tels crimes. S'ils s'en abstiennent, ils auront des comptes à rendre. Donc, deuxième bonne nouvelle, c'est le Comité des droits de l'homme de l'ONU a rendu une décision sans précédent en considérant que l'Irlande avait violé les droits fondamentaux d'une femme. Dans sa décision, le comité des droits de l'homme de l'ONU indique que les lois irlandaises qui interdisent l'avortement ont violé les droits d'Amanda Mellé, qui a la double nationalité irlandaise et américaine, car elles l'ont privée d'une interruption volontaire de grossesse, alors qu'en 2011, on lui avait appris que le fœtus qu'elle portait présentait une malformation mortelle. Le Centre pour les droits reproductifs a déposé une plainte auprès du Comité des droits de l'homme en novembre 2013 au nom d'Amanda Mellé. Un appel de l'ONU pour modifier les tests de l'avortement. Le comité a estimé que les lois irlandaises sur l'avortement avaient soumis cette femme à un traitement cruel, inhumain et dégradant et à une discrimination en violation des articles 7 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il a également noté une violation de l'article 17 relatif à la protection de la vie privée. Il a indiqué que l'Irlande avait soumis Amanda Mellé à d'intenses souffrances physiques et mentales. Il a également appelé l'Irlande à mettre en place des processus d'interruption de grossesse excessive en temps opportun et à faire le nécessaire pour que les prestataires de soins de santé soient en mesure de fournir des informations complètes sur les services offrant un avortement sûr que les personnes concernées aient à craindre des sanctions pénales.
Ok. Bien, Jaël, ben vas-y, c'est à toi.
À République démocratique du Congo, il y a des jeunes qui ont demandé le respect de la Constitution. Malheureusement, ils étaient arrêtés et condamnés à un an de prison. C'était des militants de lutte. Et la répression de la société civile ne cesse de s'aggraver alors que la perspective d'un rapport des élections présidentielles prévues en novembre 2016 semble se confirmer. La jeunesse réprime le 20 mai 2016, bienvenue Matumona et héritier capitaine, membre du mouvement citoyen Lucha, ainsi de Victor Tessongo, militant des partis de l'Union pour la nation congolaise, ont été condamnés à un an de prison pour incitation à la désobéissance civile et propagation des fausses nouvelles. En réalité, pour avoir participé à un appel pacifique à la grève, Bienvenue Batumuna et héritier capitaine ont été arrêtés à l'aube du 16 février, journée de grève nationale, surnommée la journée ville morte, qu'il visait à demander le respect du calendrier électoral. Avec Victor Tessongo arrêté la veille, il a préparé des traces pour la journée de grève nationale. Les trois ont été détenus au secret pendant plusieurs jours avant d'être transférés au parquet. Ainsi, les condamnations au terme de la procès arbitraire s'est multipliée, démontrant chaque jour un peu plus l'instrumentalisation de la justice et des fins des préparations politiques. Auparavant, 6 militants de Lucha avaient été condamnés pour les mêmes faits à 6 mois de prison à Goma.
Fred Beaumont, militant de la Lucha, et Yves Makambela, sympathisant, continuaient d'attendre leur procès depuis plus d'un an. Accusés de former une organisation criminelle, ces prisonniers d'opinion risquaient de la peine de mort. Cela portait à 10 le nombre de jeunes de la Lucha actuellement emprisonnés. Les jeunes de la Lucha en RDC sont des prisonniers de l'opinion. Ils doivent être libérés. La Lucha demande le respect de la Constitution. La pression de la société civile en RDC s'accélère en mesure d'échéance. Les élections présidentielles prévues en novembre 2016 s'approchent. Les membres du mouvement Lucha sont particulièrement visés, notamment en lien avec leur action pour le respect de la Constitution et échéance électorale. En effet, la Constitution de 2016 prévoit la tenue des élections en novembre 2016 ont l'air attendu au président de briguer un troisième mandat. Et ont déjà effectué des mandats et ne pouvaient pas modifier la Constitution. Joseph Kabila retarde l'organisation des élections. Selon une décision de la Cour constitutionnelle datant de mai 2016, ces derniers peuvent rester au pouvoir tant que de nouvelles élections ne sont pas organisées. Une décision fortement contestée pour la société civile. Ils y avoir une manière de prolonger les mandats présidentiels en cours du président. Voilà des nouvelles qui se passent dans mon pays.
Voilà, donc merci Jaël pour ce témoignage. Et effectivement, ça montre bien que la répression s'aggrave en République démocratique du Congo parce que le président en place, Joseph Kabila, ne veut surtout pas passer la main. En gros, on peut résumer ça comme ça. Donc les militants des droits humains là-bas sont de plus en plus poursuivis et persécutés. Voilà, donc continuons. Il y a toujours une pétition en ligne à signer sur le site d'amnistie.fr pour la situation en République démocratique du Congo. On ne peut que vous encourager à le faire. Bon, je vais vous parler très rapidement, parce que Sabine a pris beaucoup de temps pour vous parler d'un sujet essentiel. Donc, je vais résumer beaucoup mon propos.
Et moi, je voudrais encore parler des enfants.
Oui. Je dis un petit mot.
Et moi, j'ai un petit appel d'action à faire aussi. Hein.
Voilà. Maintenant, tout le monde veut
moi,
parler.
Moi, je parle plus.
Tout le monde veut parler. Non, mais c'est une plaisanterie. Mais bon, je voulais vous faire un petit point, parce que c'est paru dans le dernier numéro de la chronique, le mensuel d'Amnesty France. Donc c'est un petit point sur le traité sur les armes. Je vous répéterai pas ce que le traité sur les armes. D'ailleurs, le début de l'article en parle, mais référez-vous aussi à nos émissions d'il y a 2 ans. On en avait beaucoup parlé. Il a été adopté en décembre 2014. Alors voilà ce que dit le début de l'article. Adopté à une grande satisfaction des ONG en avril 2013, le traité sur le commerce des armes est entré en vigueur en décembre 2014. Non seulement il prévoit que les transactions légales des ventes d'armement près de 72 milliards de dollars en 2014 selon le Congrès américain, soit mieux contrôlé pour éviter les détournements fréquents dans ce business, mais surtout, et c'est ce qui en fait sa valeur, il stipule que les pays vendeurs doivent veiller à ce que l'usage qui en sera fait par les acheteurs ne soit pas contraire aux droits humains. Pour l'heure, le traité a été signé par 130 gouvernements, dont seulement 82 l'ont ratifié, avec plus ou moins de célérité et d'enthousiasme. L'obtention de cet accord ressemble à un parcours du combattant. Les pays du Sud étaient demandeurs d'un texte véritablement contraignant pour la raison évidente que leurs populations sont les principales victimes de ce commerce mortifère. En revanche, d'autres États réclamaient de la souplesse, à l'instar de la Chine non signataire du traité. Aux Occidentaux, ils font le grief, point complètement injustifié, que s'ériger soudain est un peu tard en professeur de morale, après s'être frénétiquement enrichi dans le commerce des armes. De fait, la subite conversion des grands exportateurs n'est pas dénuée d'arrière-pensée. Ils n'ont pas forcément vu d'un très bon œil l'émergence sur le marché de nouveaux venus comme l'Indonésie ou le Brésil, opportunément soupçonnés de vouloir, le cas échéant, s'affranchir pour capter leur part du gâteau. Bref, en gros, ce que dit cet article, c'est que entre les promesses des États signataires et la réalité, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marge. Le commerce des armes continuant jusqu'à présent sans trop de problèmes. Amnesty a enquêté auprès de deux pays tout à fait symboliques, puisque parmi les principaux pays exportateurs, on retrouve et le Royaume-Uni et la France. Donc le rapport parle de pas mal de pays, dont ces deux-là, et il dit que le Royaume-Uni passe outre ses obligations. Une partie de la réponse se trouve au Royaume-Uni, pour donc le non-respect des normes. Dans un rapport rendu public en décembre 2015, Amnesty International a mis en évidence que le gouvernement britannique enfreignait la loi en vendant des armes à l'Arabie Saoudite. Tiens donc. Deux ans plus tôt, le Premier ministre David Cameron avait pourtant déclaré son pays fier d'avoir œuvré à l'adoption d'un texte contribuant à un monde plus sûr. Selon les experts d'Amnesty, l'État britannique se soustrait délibérément aux obligations auxquelles le soumettent notamment le traité sur le commerce des armes. Après l'avoir assez promptement ratifié en avril 2014, Londres continue en effet d'autoriser la vente à Riyad de certaines armes susceptibles d'être ensuite utilisées au Yémen. On a parlé du Yémen dans la dernière émission, c'est Edith qui vous en a parlé, et le massacre des civils là-bas, où la guerre saoudienne fait de ravages humanitaires. Ça, c'est le premier pays. Et puis, charité bien ordonnée continue par nous-mêmes. Donc, l'article continue par rapport à la situation en France et dit « Le double discours français, c'est donc une spécialité bien de chez nous. » De fait, en France, où le président en exercice a été élu en 2012, notamment sur la promesse de mieux défendre les valeurs hexagonales dans le monde, une certaine duplicité continue de prévaloir dès lors qu'il est question d'armement et de commerce.
Dis-donc, Didier, j'ai pas vu là sur Facebook aujourd'hui que le président avait reçu
un dignitaire saoudien.
On
suppose qu'il y a des tractations aussi à la clé et sans doute des armes.
C'est louche, ça.
C'est louche. Donc, côté jardin, le gouvernement s'est bruyamment félicité par le biais de sa diplomatie de l'adoption du traité pour le commerce des armes. Mais donc ce qui n'empêche pas, côté court, les pratiques moins vertueuses. Au mois d'octobre 2015, et c'est un peu plus ancien que ce que vous disiez Françoise, mais ça va dans le même sens, au cours d'une visite officielle à Riyad, le Premier ministre Manuel Valls se flatte d'avoir favorisé la signature de contrats d'un montant total de 10 milliards d'euros avec l'Arabie Saoudite, avec un volet armement. Voilà, donc on signe des traités et après on se frotte les mains devant 10 milliards d'euros sans se poser trop de questions par rapport à quoi ça
sert. La Légion d'honneur.
Voilà, merci. Je vois que vous avez bien suivi. Effectivement, en plus, on leur a donné.
Ah, mais tu sais, Arabie Saoudite, on n'en fait pas de cadeaux ici.
La Légion d'honneur.
On avait la même idée.
Donc voilà. Bon, alors encore une fois, tout ça nous fait dire que le traité sur les armes existe. Donc là, effectivement, je résume considérablement. Je vous renvoie à la chronique d'Amnesty. Vous pouvez vous abonner sur le site www.amnesty.fr sur cet excellent mensuel. Vous aurez tout le détail de l'article. Et donc, je veux simplement aller à la conclusion, parce qu'on peut se dire, effectivement, signer des traités et les ratifier, c'est très bien. Vouloir protéger les populations civiles par rapport au commerce des armes, ce n'est que mieux. Mais finalement, si personne ne respecte, même pas les signataires, ça ne sert à rien. Et donc, l'article conclut comme ça. Hypocrisie ? Le mot est peut-être celui qui caractérise le mieux la distance qui, plus d'un an après l'entrée en vigueur du TCA, sépare les intentions proclamées des réalités commerçantes, en particulier pour les pays occidentaux. Comment en sortir ? Les États qui ont ratifié le traité se sont engagés à remettre au secrétariat général des Nations Unies chaque année un rapport portant sur l'année civile précédente et concernant les exportations et importations d'armes classiques autorisées ou effectuées. Ces documents seront d'une portée limitée puisque l'ONU a estimé que toute information de nature commerciale sensible ou relevant de la sécurité nationale pouvait en être exclue. Cependant, ils permettront tout de même de juger sur pièce de la bonne volonté des États concernés. Et il va de soi que la publicité qui leur sera faite contribuera à lever les ambiguïtés dans lesquelles leur gouvernement se complaise alors qu'il est question de négoce des armes. Mais il est permis de douter que cela suffise, car certains signataires ont refusé que leur rapport soit rendu public. Là réside tout l'intérêt de la référence faite pour la première fois aux droits humains dans le traité. Ce n'est qu'en prenant conscience que la menace de poursuite pénale en cas de violation de ces droits pèse désormais sur eux que les pays exportateurs amenderont leurs pratiques. Il importe donc que la société civile pèse de tout son poids dans les débats qui ne manqueront pas de survenir. Voilà, donc ce que dit Amnesty, c'est que la balle est dans notre camp. Si on ne veut pas que ça continue comme ça entre les signataires et l'hypocrisie des signataires, il faut se remobiliser par rapport à ce dossier et exiger effectivement que le commerce des armes en violation des droits humains cesse.
Bon, moi, je voudrais vous parler d'un témoignage d'un jeune migrant. J'étais particulièrement émue sur son parcours. Voilà ce que dit cet enfant de 12 ans. La liberté pour moi, c'est quand la porte de la cage s'ouvre et que tu peux déployer tes ailes. L'Afghanistan, c'est une cage aujourd'hui. Il souhaite que nous l'appelions Shadab, celui qui est joyeux en farsi. À 6 ans, j'ai commencé à travailler comme berger. Shadab rêve de l'école, mais n'y a jamais mis les pieds. En septembre 2015, avec 17 autres jeunes de son village, il prend la route. Nous avons entendu Angela Merkel déclarer qu'elle accueillerait 800 000 réfugiés. Alors, nous avons aussitôt commencé le voyage. 15 jours de marche dans les montagnes d'Afghanistan, 2 mois de travail dans une carrière de marbre en Iran. Je travaillais de 7 heures du matin à 19 heures. Cela m'a permis de gagner de quoi continuer. Shadab veut rejoindre au plus vite la Suède où l'attend quelqu'un de son village. Ce que je veux, c'est commencer ma vie d'enfant. J'ai assez bossé.
Oui.
Voilà.
C'est très ironique, effectivement. Mais c'est un beau témoignage, c'est sûr. On va peut-être... qu'est-ce qu'on fait ? On passe 2-3 minutes de musique et on termine l'émission avec l'appel à l'action de Ronan. Et puis, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on ferait encore ?
La pétition du CFED.
Ah oui, il y a la pétition aussi. Et puis, notre actualité pour la rentrée. Et je crois qu'il sera 8h. Donc, quelques secondes de musique. Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International Évreux, et on vient d'écouter Paul Persson. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas écouté. Ça me manquait un peu. Dans un morceau dont j'ai oublié le titre, donc je ne vous le dirai pas. Parce
une
que
journée.
Une journée, voilà.
Tout simplement, le titre, c'est une journée.
Donc maintenant, on avait
je
dit qu'on faisait quoi
lire.
C'était Françoise qui voulait vous parler d'une action.
Oui, une action qui est proposée par le CFED. C'est une pétition en faveur de Nana Katoyan et Georgie Doloyan. Irakli Tamoev est décédé le 27 mai 2016. Irakli, de la minorité yézide, né en 1948, était entré en France en 2011 pour demander l'asile. Veuf, son fils assassiné en Géorgie, sa fille mariée installée en France avec le statut de réfugié, une sœur vivante à Évreux, Irakli est venu vivre à Évreux. Il y a rencontré Nana Katoyan, veuve aussi, son mari ayant été assassiné en Russie. Avec le fils de Nana, Géorgie, ils ont créé une nouvelle famille. Ils n'ont pas obtenu l'asile. Ils ont eu une obligation à quitter le territoire alors qu'ils n'ont pas la même nationalité. Irakli a pu avoir un droit au séjour en tant qu'étranger malade pendant un an, puis a eu une nouvelle obligation à quitter le territoire en 2014. Le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet, mais celui-ci a fait appel en juin 2015. C'est toujours en cours. Irakli était malheureux de savoir sa compagne sans papier et son beau-fils avec simplement des autorisations provisoires de séjour depuis fin 2014, sans le droit de travailler et vivant sur un autre lieu d'hébergement. Irakli était fatigué de quémander de l'aide et d'être en grande précarité. Son vœu était de vivre en paix avec sa femme et Georgie, qu'il considérait comme un fils, et d'avoir une indépendance financière. Irakli et Nana se sont mariés en novembre 2015 à Évreux. La préfecture a refusé de prendre une demande de séjour de Nana parce qu'elle devrait être repartie dans son pays. Donc le CFED demande la régularisation expresse de sa veuve, Nana Katoyan, et de son beau-fils, Georgie Doloyan, plongé dans un grand chagrin. Donc c'est une demande très urgente. Et si vous voulez consulter le site du CFED, vous pouvez participer à cette pétition qui est très importante.
Tu nous donnes l'adresse, tu donnes l'adresse du site? Non, tu l'as l'adresse du site, Françoise?
Je ne l'ai pas sous le coude.
Ah, on n'a pas sous le coude. Bon, vous allez sur Google, vous tapez CFED Évreux et vous aurez les... Ben si, pourquoi?
Google, c'est une pub.
Oh, c'est pas grave. Tout le monde passe par Google. Donc, vous aurez l'adresse internet du CFED Évreux. C'est une association qu'on connaît bien et avec qui on collabore régulièrement. Voilà. Après, il y avait Renan qui voulait aussi vous parler d'un autre appel à l'action, mais là, c'est une appel à l'action Amnesty.
Tout à fait, c'est l'appel à l'action au Yémen, disparition forcée de 10 journalistes. 10 journalistes yéménites ont été victimes d'une disparition forcée le 23 mai, incarcérés jusqu'alors au centre de détention provisoire d'Al-Abra à Sanaa, donc qui est la capitale du Yémen. Ils ont été transférés dans un lieu inconnu. Ils sont détenus arbitrairement depuis le 9 juin 2015. Donc, ce que vous demande, c'est tout simple, comme d'habitude. Vous envoyez un mail dessus le site d'Amnesty Évreux en nous disant que vous êtes intéressé par cet appel à l'action. Après, il y a une lettre qui est toute faite avec l'adresse à qui l'envoyer. Donc, il n'y a rien de plus simple. Donc, Didier va nous rappeler l'adresse d'Amnesty Évreux.
Oui, l'adresse mail d'Amnesty Évreux. Ce n'est pas le site, hein, c'est l'adresse
mail.
Non,
c'est l'adresse mail que je voulais dire.
C'est Amnesty, amnesty.evreux@gmail.com. Voilà, vous nous envoyez vos coordonnées, on vous renvoie
la lettre. Tout à fait, intéressé par cette lettre, elle est toute faite.
Voilà.
Merci.
Bah, de rien.
Non,
de
mais
rien.
C'est pas toi qui merci, c'est aux gens qui vont nous écrire.
C'est rigolo, tel qu'il disait merci. Bah, merci. Merci aux auditeurs de nous soutenir.
Non, tu sais, j'ai dit merci parce que je me suis rendu compte que Françoise dit merci à l'après, donc je me suis dit pour faire pareil, je dis merci.
Bon. Quelques mots parce que le temps nous imparti, comme on dit en termes de radio, va bientôt se terminer. Quelques mots sur notre actualité récente. Donc, on était au Festival Rock vendredi et samedi dernier.
Tout à fait.
Au Festival de Rock dans tous ses états. On en profite pour remercier encore une fois les gens de l'abordage, organisateurs, de nous avoir accueillis si gentiment. Comme à chaque fois d'ailleurs, effectivement, on est très bien reçus. Et puis on a tenu un stand d'action pendant les deux jours qui était avec une action principale qui était orientée vers l'accueil des réfugiés. Je vous renvoie là aussi à notre émission, non pas celle d'aujourd'hui bien sûr, mais celle du mois de mai, qui est toujours en podcast sur le site de Principe Actif, vous explique effectivement toute cette action et le pourquoi de cette action, donc on ne va pas la reprendre. Mais on l'a présentée au festival et grâce, deuxième remerciement, je voulais le dire auprès de Damien. Damien, ce que vous connaissez tous, hein, Damien de la radio Principe Actif, qui m'a permis très très gentiment et avec beaucoup de facilité de contacter un groupe qui s'appelle O2N et qui jouait vendredi soir peu de temps avant Louise Attaque, la tête d'affiche, et qui m'a permis effectivement, qui m'a autorisé à venir lire un petit texte sur le droit des réfugiés et la campagne qui s'appelle Des visas pour les réfugiés, de lire ce petit texte sur scène juste avant qu'il ne passe. Donc merci bien sûr à ce groupe qui était effectivement très 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 ouvert à nos causes et très avec qui ça s'est passé très très simplement. Merci à Damien de m'avoir permis de faire cette démarche. Et puis encore une fois, c'est une façon de porter la parole et les convictions d'Amnesty qu'on partage tous, et je suis persuadé que la plupart de ceux qui nous écoutent les partagent aussi, dans des lieux publics, et de profiter de l'affluence des gens pour faire passer nos messages.
Une soirée de remerciements, là, c'est ça?
Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Là, c'est vraiment quelque chose qui est important. On l'avait déjà fait dans d'autres festivals. Sabine, qui est à côté de moi, se rappelle de l'histoire avec Manu Chao, par exemple, il y a quelques années. L'histoire aussi avec Woodkid l'année suivante, avec qui on avait pu effectivement prendre la parole. Et cette année, bon, bah, ça s'est passé avec O2N. Et c'est vraiment des choses qui sont assez privilégiées. Ce n'est pas dans tous les festivals que les groupes militants comme Amnesty peuvent faire ce genre de choses.
En plus, moi qui me trouvais dans le public, c'est vrai que les gens ont écouté à côté. Non, ça c'est très, très bien.
Il y avait plein de monde.
Il y avait plein de monde, mais les gens, ils ont vraiment écouté.
Ah oui, pareil, tu as été très applaudi, m'ont dit les amis.
J'étais applaudi, mais moi, je ne chantais pas.
En fin de compte, je ne suis pas sûr que c'était lui qu'on a produit.
Non, ce n'est pas moi. Non, c'est pas quoi.
Vous savez, c'est le mouvement
de ce c'est ce que j'ai dit qui était applaudi. Donc voilà. Donc autre chose, bah, ça c'est notre actualité récente. Notre actualité future, bah, c'est la rentrée au mois de septembre. Restez à l'écoute de la radio, puisque notre planning d'action, bah, on va l'affiner. On a déjà quelques idées, mais on va l'affiner après la pause estivale. Bien sûr, en juillet-août, on ne sera pas à la radio et nous-mêmes, on prendra quelques congés bien mérités. Mais on sera là à la radio. Et déjà, on peut vous dire qu'à la radio, on va passer à deux fois par mois. À partir de la rentrée, puisqu'à chaque émission, là c'était encore le cas d'aujourd'hui, on a plein de sujets qu'on avait préparés et qu'on n'a pas le temps de traiter. Donc pour éviter ça, on va passer à deux fois par mois. Et François, je crois que tu avais noté les dates. Ah bah tu les as marquées sur le papier.
C'est marqué.
Voilà. Et donc on sera sur l'antenne. La prochaine fois, ce sera le mardi 13 septembre, pour une première fois, donc 19h à 20h pour le direct. Et la deuxième fois, le mardi 27 septembre, 19h à 20h aussi. Voilà. Bon, sous réserve que tout ça soit confirmé par les permanents de la radio, mais enfin, bon, au niveau des dates et des horaires, mais enfin, bon, c'est bien parti. Normalement, il n'y aura pas de souci. Donc, mardi 13 et mardi 27, 19h à 20h, pour nous écouter sur l'antenne de Principe Actif et agir avec nous. Voilà, moi, ce que j'avais à dire. On reparlera des réfugiés aussi au niveau d'Amnesty dès le mois de septembre. Mais il y a des choses qu'il faut qu'on organise mieux. Donc, on en reparlera à la radio le 13. Et on vous tiendra au courant, évidemment, ainsi que dans les journaux. Enfin, tous nos moyens de communication habituels. Voilà. Je ne sais pas si Sabine, Françoise, Jaël, Renan, vous avez un petit mot à dire pour la dernière émission. Mais il y a déjà Renan qui a mis le générique. Donc, il va nous couper la parole à tous. Bon été.
Allez, bonne soirée.
Bonne soirée.
Et au mois de septembre.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous,